Ok, donc on va tourner à nos Bibles. Je commence aujourd'hui trois messages sur l'appel au pastorat. Un, deux, trois. Peut-être quatre, mais je pense trois. Je voulais faire deux. C'est devenu trois. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui n'est pas le pastorat. Ce qui n'est pas l'appel au pastorat. Donc je vais le refaire à la maison ou tout à l'heure. De toute façon, on va le mettre sur, en ligne. Tu vas enregistrer? Okay. Ça, c'est message 1. Message 2, ce qui est le pastorat, l'appel au pastorat. Et message 3, ce qui sont les qualifications du pasteur. Okay? Donc, je vais lire dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Et par la suite, dans 1 Timothée, chapitre 3, et verset 1. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, on retient pour le message, il a donné, donc Dieu a fait le don aux hommes de ce qui s'appelle, entre autres choses, pasteur et docteur. C'est une fonction dans l'Église, c'est un office. Donc, la fonction du pasteur est là, et quelqu'un va remplir cette fonction. Aujourd'hui, c'est moi qui remplis la fonction du pasteur. Bien que je ne suis pas le pasteur, je suis missionnaire, mais j'ai rempli la fonction. Et donc, cette chose est là, comme pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints. Donc, ceux qui remplissent la fonction du pasteur travaillent pour aider les chrétiens, les frères et sœurs, à être plus aptes à faire le travail que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour l'édification du corps de Christ. Et puis dans 1 Timothée chapitre 3 et verset 1, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, donc l'évêque c'est le pasteur, il désire une œuvre excellente. Donc c'est une bonne chose. C'est normal qu'il y a parmi les chrétiens qui veulent devenir tôt ou tard pasteur. Mais j'insiste sur l'idée, c'est une fonction dans l'Église. Okay? Parce que plus tard, on va voir que si un homme est pasteur, il remplit la fonction du pasteur, mais il n'est pas qualifié, ben, il faut le changer, il faut prendre une autre personne qui est qualifiée. On verra ça plus tard. Donc, je voudrais très brièvement réviser les autres messages donc de Pierre et de moi-même sur les appels de Dieu. Et je vais faire ça simplement en citant dans le dictionnaire biblique quelques phrases sur la page 1328. Les élus sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans la foi et l'obéissance. Il est important de souligner que la vocation n'est pas seulement un appel au salut, mais aussi au service. Tous les chrétiens sont donc appelés à la fois au salut et à un service particulier. C'est ce que soulignent Pierre et Paul en parlant des dons accordés à chacun pour un tel service. C'est la fin de cette citation dans le dictionnaire biblique. Tôt ou tard, et par cela je veux dire plus tôt que plus tard, le centre biblique aura le privilège et la responsabilité d'appeler son premier pasteur. Le travail du missionnaire, donc, ça c'est mon travail, est d'amener une église à son autonomie, son indépendance. Les membres de notre église vont un jour choisir le propre pasteur, pour la première fois. Et au fil des années, elle devra en appeler d'autres. Donc, mon église à San Francisco a été fondée en 1881. Et à travers les années, ils ont appelé 13 pasteurs. Hein? Donc, ça touche quand même sur 3 siècles. Juste avant le 20e siècle et juste maintenant dans le 21e. Donc, ils ont eu 13 pasteurs. Ils ont dû faire la procédure pour appeler un pasteur 13 fois. Et bientôt, ils vont faire un autre. Hein, parce que notre pasteur actuel a plus de 80 ans. Donc, ça ne va pas durer beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je pense que ce qui sera le plus utile, c'est que j'explique ce qui n'est pas l'appel au pastorat. Donc, on va voir certains appels au ministère dans la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, mais qui ne sont pas l'appel au pastorat. Comme ça, on va pouvoir distinguer entre ce que Dieu a fait dans le passé, dans l'Ancien Testament, et pendant l'époque des apôtres, et puis ce que Dieu fait maintenant à travers les églises. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de ce qui constitue l'appel biblique du pasteur. Puis, on va revenir en janvier et je vais parler des qualifications du pasteur. Je vais noter aussi que quand je parle du pasteur, le vocabulaire reste dans le masculin, car bibliquement, seuls les hommes peuvent devenir pasteur. Donc voilà comment on va procéder. Premièrement, je parlerai brièvement de ces appels dans l'Ancien Testament. Et puis, je parlerai des 3 types d'appels au service spécifique chrétien dans le Nouveau Testament. Donc, les premiers deux, sont l'appel d'autorité divine. Donc, cela ne concerne que l'appel des apôtres. Et l'appel d'autorité apostolique, donc comme j'ai dit, l'appel d'autorité divine, et puis après l'appel d'autorité apostolique. Et là, ça parle de l'engagement d'un homme dans un service particulier par un apôtre. Et il est évident que ni l'un ni l'autre de ces cas-là concerne l'appel au pastorat. Donc je passe le temps pour en parler parce que il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui aimerait bien tomber dans ces deux catégories-là. Et ce n'est pas vrai. On ne tombe pas dans ces catégories-là. Puis la troisième catégorie, le troisième cas que nous allons voir la semaine prochaine, c'est ce qui est, c'est l'appel par l'Église, c'est l'appel ecclésiastique. Donc là, on parle de l'appel au pasteur par son Église locale. Et par son église locale, c'est l'appel biblique du pasteur. Et on verra ça la semaine prochaine. Donc, pour commencer, on va regarder dans l'Ancien Testament. On va regarder un tout petit peu les appels des grands personnages. Okay? Donc, et je vous rappelle, ce ne sont pas les appels au pastorat de l'église chrétienne. Hein? C'est pas les appels du pastorat. Ce sont des appels de Dieu envers ces hommes dans l'Ancien Testament. Alors, quand on pense à ces grands personnages de la Bible, on observe que pour chacun de ces hommes, Dieu leur parlait directement, à voix audible. Par exemple, il y a Noé, il y a Abraham, il y a Daniel, il y a David, il y a Moïse, il y a Samuel, il y a Ésaïe, il y a plein de personnages dans l'Ancien Testament. Dieu a parlé directement. Des fois, c'était à travers un prophète, mais souvent, c'était directement. Et je voudrais tourner dans 1 Samuel chapitre 3. Donc, moi, j'ai sélectionné un seul cas. Donc, c'est l'appel de Samuel. Nous allons voir l'appel de Samuel. 1 Samuel chapitre 3, à partir de verset 1, dans nos Bibles. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alors Élie, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. C'était avant le temple. D'ailleurs, c'est vers l'année 1100 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas encore le temple, c'est le tabernacle. Et c'est Élie qui s'occupe des fonctions du prêtre. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc on voit ici le petit Samuel est en train, il est au service, il était en train de servir le Seigneur. C'est le même principe dont je vous ai parlé la semaine dernière, quand j'ai dit il était déjà en train de servir le Seigneur. Il était déjà en train de servir Dieu avant que Dieu l'appelle à la fonction de prophète. En Samuel, il n'était pas appelé à être pasteur, il est appelé à être prophète. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Verset 4. Alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. » Je retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc, je pense déjà, on peut voir ici que parfois, il est difficile de discerner l'activité de Dieu dans nos vies. Même Élie n'a pas compris au début. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. » Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Alors l'histoire va continuer, je vais arrêter notre lecture là, mais l'histoire même, ça continue. Le point, c'est qu'on voit l'appel ici de Samuel. Et je vais insister, hein, l'appel de Samuel n'est pas un appel au pastorat, c'était un appel au ministère du prophète. Pourtant, il y a plusieurs leçons que nous pouvons appliquer à nos vies de chrétiens. Okay? Première chose, nous voyons la soumission de ce garçon. Il voulait être soumis, il était soumis à Élie, il voulait être soumis à Dieu. On voit aussi son désir de plaire et d'obéir. Il court, « Oh oui, tu m'appelles, je viens !» Et puis, on voit aussi à la fin sa volonté d'entendre la parole de Dieu et de le servir. Ce sont des bonnes leçons pour nous tous. Donc, moi, je vous pose la question, pouvez-vous dire, comme Samuel, « Me voici Dieu, hein? Je suis prêt, utilise-moi. » Dans l'Ancien Testament, depuis Noé jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu lui-même a donné à ces hommes des ministères particuliers. Il leur parlait de vive voix, et comme j'ai déjà dit, des fois à travers des prophètes. Nous lisons dans l'Ancien Testament comment le Saint-Esprit venait temporairement sur une personne pendant le temps de son mandat, de son activité, pour accomplir le ministère que Dieu avait en vue pour cette personne. Et puis, le Saint-Esprit partait. C'était comme ça sous l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le régime de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit ne vient plus sur une personne choisie par Dieu, car aujourd'hui, le Saint-Esprit vient résider, c'est pas simplement reposer pendant un temps, il réside dans chaque, dans tout, mais chaque croyant depuis le jour de son salut. Il est déjà là, dans le croyant, et cela de manière éternelle. Le Saint-Esprit nous rend tous, tout chrétien, capable de servir Dieu et de lui plaire. De ce fait, Jésus s'attend à ce que chaque chrétien serve Dieu selon la volonté divine. Nous devons apprendre à soumettre joyeusement notre volonté à la volonté de Dieu et ainsi de marcher avec lui. Nous devons choisir d'obéir à Dieu en dépit de nos sentiments et de nos projets. Nous devons toujours mettre le Seigneur en premier. C'est le même conseil que l'on donne aux jeunes chrétiens qui considèrent fréquenter des non-chrétiens. Choisir d'obéir au Seigneur en dépit de ses sentiments. J'espère que chacun de vous désire servir Dieu selon sa volonté, chacun selon les dons particuliers que vous avez reçus de Dieu. Mais encore, rien de ce que je viens de dire ne constitue un appel au pastorat. Maintenant, on va tourner au Nouveau Testament. Ce n'est pas très souvent que quelqu'un se tarde là, donc j'ai... Donc, Nouveau Testament, comme on a déjà vu dans les dernières fois, il y a des appels généraux, n'est-ce pas? Que Dieu appelle tous les chrétiens à certaines choses. Mais il y a au moins trois types d'appels concernant le service chrétien à plein temps. Et nous allons voir les premiers deux cas aujourd'hui, et ni l'un ni l'autre de ces deux cas sont l'appel au pastorat. Je vais répéter le premier verset que j'ai cité tout à l'heure. Et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Donc ce sont des appels, ce sont des fonctions, et Dieu appelle les personnes dans ces choses-là. Ce ne sont pas les appels au pastorat. Dans le Nouveau Testament, il y a, premièrement, l'appel d'autorité divine. Le Seigneur Jésus-Christ a appelé certains hommes directement. On va revenir. Puis, il y a aussi l'appel d'autorité apostolique, donc sous l'autorité de l'apôtre. Et là, on a un apôtre qui appelle un homme à faire un service ou un travail spécifique. Là, on veut dire que le Seigneur Jésus, il appelle à cet homme, il a appelé cet homme par intermédiaire d'un apôtre. On va revenir. Mais ni l'un, c'est les deux cas qu'on va voir tout à l'heure. Mais je spécifie encore que ni l'un ni l'autre, ces deux cas, n'est un appel au pastorat. Puis le troisième cas que nous allons voir la semaine prochaine est l'appel d'autorité ecclésiastique. Le mot ecclésiastique veut dire de l'Église. Okay? Donc c'est une assemblée locale sous sa propre autorité, donc comme le centre biblique, sous sa propre autorité en tant qu'Église, mais quand même soumis à la parole de Dieu. l'assemblée locale appelle un homme pour devenir son pasteur. Et donc, on comprend bien, ça veut dire que le Seigneur Jésus appelle quelqu'un par intermédiaire du vote des membres d'une église locale. Donc, en revenant, dans le premier cas, l'appel d'autorité divine. L'appel d'autorité divine est l'appel que les apôtres ont reçu directement de la part du Seigneur Jésus. Par exemple, Paul, Pierre, Matthieu, etc. Dieu a choisi personnellement les hommes pour le servir. Les évangiles nous relatent l'appel des 12 apôtres. Tous les apôtres ont été appelés par la voix même du Seigneur Jésus, et selon leur mandat, les apôtres devaient rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, du fait qu'ils étaient tous les témoins oculaires. Paul nous parle aussi de son propre apostolat. La Bible dit clairement que Paul a eu son mandat par intervention personnelle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est présenté à Paul sur la route vers la ville de Damas et lui a parlé d'une voix audible. Par la suite, donc, les 12 apôtres ont choisi, sous la direction de Dieu, quel homme devait remplacer Judas qui avait trahi Jésus. Donc là, on voit dans Actes chapitre 1, si vous voulez lire avec moi, Actes chapitre 1, versets 21 et 22. Actes chapitre 1, verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Puis, Paul dit de lui-même dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 11, bonjour, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Établi par qui? Établi par le Seigneur Jésus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 et 17, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est, alors, la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La nécessité a été imposée par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. À bien comprendre que Dieu n'appelle plus directement les hommes comme il avait fait dans l'Ancien Testament, ni comme il a fait dans les Évangiles et les Actes des Apôtres. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui usurpent l'autorité divine, qui prétendent que Dieu leur a parlé quand Dieu ne leur a pas parlé, ou des gens qui prétendent que Dieu leur a apparu en rêve ou en vision pour les appeler en service alors que Dieu ne leur a pas apparu ni parlé. Ces gens cherchent par ces mensonges à imposer une fausse autorité sur les chrétiens de leur milieu. Ce sont des charlatans. Dieu ne leur a jamais ni parlé ni apparu. Quel orgueil! Personne n'a le droit de prétendre être apôtre aujourd'hui. Personne ne peut connaître, d'après la chair, de manière humaine, ni être témoin oculaire de sa résurrection. Personne n'est investi d'autorité divine et cela depuis 20 siècles. D'ailleurs, Jésus nous a mis en garde contre ces fraudes dans Matthieu 24. L'auteur du livre Fondements bibliques explique bien la différence entre l'appel apostolique et l'appel pastoral quand il dit à leur mort, donc la mort des apôtres, l'autorité apostolique disparut. Elle, son autorité, est dans ce livre maintenant, dans leur écrit, inspiré directement par l'Esprit de Dieu. Elle subsista, donc l'autorité apostolique subsista cependant par leur écrit, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et la responsabilité de l'enseignement de la Bible passe depuis les apôtres aux églises. Les églises avaient ainsi la charge de déterminer pour elles-mêmes leur pratique selon les Écritures, de consacrer et appeler elles-mêmes leur pasteur et d'envoyer des missionnaires. Fin de citation. Le point, c'est qu'il n'y a aucun appel pour le pastorat qui soit divin ou mystique. Il n'y a pas d'intervention divine pour les apôtres comme pour les apôtres. Ceux qui prétendent avoir une telle autorité ne sont pas honnêtes. Aujourd'hui, si nous pensons, si vous pensez que le Seigneur vous a dirigé dans une certaine voie, vous devriez dire humblement, « Je crois que le Seigneur m'a dirigé dans cette direction par les circonstances présentées devant moi. » Or, si plus tard, vous comprenez que vous vous êtes trompé dans votre évaluation des circonstances, eh bien, vous n'accuserez pas le Seigneur de vous avoir induit dans l'erreur. Non, les gens qui disent, « Ah, oh, mais le Seigneur m'a dit de faire ceci ou cela. » Eh bien, non, et puis après, « Ah, mais c'est ta faute, Dieu. » Non, ce n'est pas bien. Le second cas que nous abordons aujourd'hui existait pendant la vie des apôtres et seulement à l'époque des apôtres. Il y avait, d'après le Nouveau Testament, un appel sous l'autorité des apôtres. Encore, ceci n'est pas la méthode actuelle pour appeler un pasteur. Hein? Ce n'est pas un appel du pasteur. La Bible nous dit que certains hommes ont reçu un appel, un mandat de service, sous l'autorité d'apôtres. L'homme en question était engagé par l'apôtre. C'est le cas en particulier de Timothée et de Tite. Dans les épîtres à Timothée et à Tite, nous lisons beaucoup sur l'autorité apostolique de Paul. Il dit « Je, Paul, je, Paul ». Donc, dans ses propos qu'il a adressés à Tite et à Timothée. Donc, par exemple, Paul dit à Timothée, « À mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, Paul a engagé Timothée de rester enseigner l'Église à Éphèse. Puis, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Paul lui-même avait donné l'autorité à ce jeune homme. Timothée et Tite ont été mandatés par l'apôtre Paul. Personne n'a voté pour qu'ils remplissent leur fonction. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus des mandats de Tite et de Timothée serait l'appel du missionnaire. Car le missionnaire, il est aussi mandaté, mais non pas de Dieu, et non pas non plus d'un apôtre, mais par son église locale, afin d'établir des nouvelles églises qui, en temps voulu, vont voter leur propre pasteur. Le mandat apostolique pour un ministère quelconque ne correspond en rien avec la méthode par laquelle les pasteurs sont appelés. Car l'appel du pasteur est écrit dans Actes chapitre 14 et au verset 23. Actes chapitre 14 et verset 23. Dans chaque église, c'est Paul, dans chaque église, il fit élire à main levée des anciens. Anciens, c'est les pasteurs. Ça, c'est dans la parole vivante. Nous voyons dans ce verset que Paul proposait un homme aux membres de l'église locale, de l'église, de chaque église. Okay? Donc il dit, voilà, Thomas. Voilà, je propose Thomas. Puis les membres évaluaient les qualifications de cet homme, disons de Thomas. Et comme le montre le passage, les membres de l'église ont levé la main, donc ils ont voté, afin d'élire leur pasteur. Nous pouvons voir donc, Paul ne désirait pas imposer un pasteur, mais il proposait, il voulait que les églises choisissent ou élisent eux-mêmes leur propre pasteur. Il y a un exemple intéressant et aussi instructif où l'apôtre Jean intervient dans une assemblée pour dire que le pasteur actuel n'était plus qualifié pour la fonction du pasteur et que l'Église devait le remplacer par un autre frère. Et là, nous lisons dans 3 Jean, chapitre 9 à 11, donc je supprime quelques parties des phrases. 3 Jean, verset 9 à 11. Jean dit que le pasteur Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point en tenant contre nous des méchants propos. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Ça, c'est 3 Jean, versets 9 à 11, et j'ai supprimé quelques phrases. Puis Jean propose que Démétrius serait un bon pasteur. En quelque sorte, Jean a fait élire Démétrius. Verset 12, 3 Jean 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, c'est Jean. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Le point, c'est que aujourd'hui, il n'y a ni intervention divine dans le choix du pasteur, ni mandat apostolique pour être pasteur. La Bible n'enseigne aucun type d'intervention spectaculaire, miraculeuse, ni même apostolique pour l'appel des pasteurs. L'appel d'un pasteur n'est ni comme dans l'Ancien Testament, ni comme l'appel divin des apôtres, ni même comme un mandat exprimé par un apôtre. Ce point est très important. Imaginons que quelqu'un entre dans la salle. Ah, Dieu veut que je sois pasteur du centre biblique. Il me l'a dit dans un rêve hier soir. OK? Ce genre de choses arrive. OK? Oh, d'accord, Dieu le veut, on va vous obéir. Attention. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre ce qui n'est pas l'appel au pastorat. Okay? Il y a toujours certains prétendus pasteurs qui disent avoir reçu un appel d'intervention divine, de voix céleste, etc., pour inciter les gens à les suivre. En réfléchissant, nous comprenons bien la psychologie derrière cette manipulation. Si le charlatan arrive à persuader les gens que son, entre guillemets, appel viendrait directement de la part de Dieu, ou même par l'intervention d'une voix miraculeuse, personne n'oserait résister aux abus de ce pasteur ou de ce pape. D'ailleurs, pourquoi, bon, c'est pas l'enseignement, mais c'est en négatif, hein, pourquoi une église aurait-elle besoin de voter pour établir son pasteur si Dieu avait déjà nommé l'homme? Et qui aurait l'autorité de renvoyer quelqu'un établi par Dieu? Il n'y aurait plus rien à faire, plus rien à dire, car cela serait combattre contre Dieu. Ce ne sont que des manipulations malhonnêtes. Le Nouveau Testament n'enseigne absolument pas cela. Comme nous avons vu, le Nouveau Testament enseigne que l'Église locale doit élire son pasteur et que, si besoin, l'Église locale doit remplacer un pasteur qui n'est plus qualifié pour être pasteur. Aujourd'hui, nous avons vu surtout ce qui n'est pas l'appel au pastorat. La semaine prochaine, on va voir ce qui est l'appel au pastorat. Certains pensent que l'appel au pastorat est annoncé par Dieu d'une manière miraculeuse comme pour Samuel. Mais non. L'appel au pastorat se fait après un cheminement dans la foi et une préparation pour le service. En voyant son bon témoignage, l'Église locale va reconnaître qu'un homme ou un jeune homme est qualifié pour servir Dieu et au moment convenu, l'Église pourra l'établir dans la fonction du pasteur par le vote des membres. Certes, l'office du pasteur est un don de Dieu. On l'avait lu au début, Éphésiens 4, 11. Il a donné, donc Dieu, le Seigneur Jésus, a donné les uns comme pasteur et docteur. Donc oui, c'est un don. Mais l'appel de l'homme qui remplit cette fonction, cet office, n'a rien de mystique ni de surnaturel. Aujourd'hui, Dieu appelle un homme au pastorat par la voix des membres de l'église locale. Frères et sœurs, j'en parle hein, parce que dans les prochaines années, vous aurez le plaisir de choisir et d'appeler votre propre pasteur. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager dès maintenant, à prier pour que Dieu vous prépare un ou plusieurs hommes capables de remplir la fonction du pasteur ici, dans notre centre biblique de Brive et aussi dans nos petites œuvres quand il faut. Okay?